Bienvenue dans Légicast, le podcast OpinionWay dédié aux élections législatives 2017. Pour ce premier numéro, Bruno Jambard et Frédéric Michaud, directeur général adjoint et directeur des études politiques d'OpinionWay, vous livrent les enseignements de la première vague du Légitrack et reviennent sur le fonctionnement de la modélisation permettant de calculer le nombre de sièges par parti dans la prochaine Assemblée nationale.
Bonjour, bienvenue dans ce premier Légicast. On va poursuivre l'expérience de la présidentielle et vous parler jusqu'au 18 juin des élections législatives avec Frédéric Michaud et essayer de vous expliquer un petit peu ce que l'on fait dans le cadre de cette élection qui est très différente de l'élection présidentielle. Alors, pour commencer, on a publié hier soir une première grande enquête dans la perspective de ces législatives. Frédéric, qu'est-ce que nous disent les électeurs finalement sur leur perception de ces élections, leur intérêt pour ces élections et les rapports de force qu'on pourrait mesurer entre les différents partis au premier tour.
Commençons immédiatement peut-être justement par les rapports de force. Les intentions de vote au premier tour des élections législatives accorderaient un résultat de 27% à La République En Marche, très loin devant Les Républicains ou l'UDI, 20%, et devant le Front National, au même niveau, à 20%. Quatrième position, la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon obtiendrait un score de 14%, devant le Parti Socialiste et ses alliés, 11%. Donc, une situation qui est caractérisée par la domination de La République En Marche. On est là vraiment dans la logique des institutions de la Ve République. Prime au vainqueur, les institutions de la Ve République veulent que le président de la République dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale pour gouverner. En deuxième position, les Républicains et l'UDI, 20%, ce qui correspond au score obtenu par François Fillon lors du premier tour de l'élection présidentielle, donc une bonne résistance des Républicains et de l'UDI, alors même que le Premier ministre, le ministre de l'économie, le ministre du budget sont tous les trois issus des rangs des Républicains. Aujourd'hui, l'électorat républicain reste derrière les candidats républicains. Pour le Front National, en revanche, 20%, c'est un petit décrochage par rapport au score obtenu par Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle. Et puis, il y a aussi un écart très fort entre le score obtenu par Jean-Luc Mélenchon, 20%, et puis le score qu'obtiendraient les candidats de la France insoumise, 14%. Pour le Parti Socialiste et ses alliés, en revanche, sans doute une force de rappel qui est liée à l'implantation locale des candidats du Parti Socialiste, 11%. C'est un peu mieux que le score de Benoît Hamon au premier tour de l'élection présidentielle, mais c'est quasiment deux fois moins que le score qu'avait obtenu le Parti Socialiste en 1993. 1993, c'est la défaite historique du Parti Socialiste avec un score de 20%. Il n'avait obtenu que 57 députés. Donc aujourd'hui, les intentions de vote sont deux fois moins élevées que le score obtenu en 1993. On verra ultérieurement ce que ça signifie en termes de projection en nombre de sièges. Si l'on regarde maintenant la certitude de choix au premier tour de ces élections législatives, à quelques semaines du vote, d'ores et déjà, plus de la moitié des personnes interrogées se déclarent certaines de voter pour le candidat, alors même que la campagne électorale est sur le point de débuter, donc une incertitude qui concerne 48% des électeurs, avec là aussi des variations selon les électorats. Les électeurs qui font preuve de la plus grande certitude dans leur choix sont, comme au moment de l'élection présidentielle, les électeurs du Front National. 72% d'entre eux sont d'ores et déjà certains de voter pour un candidat du Front National. En deuxième position, les électeurs de La République En Marche, là avec peut-être une nouveauté par rapport à ce qui avait été observé lors de l'élection présidentielle.
Oui, effectivement, on a déjà un électorat de La République En Marche qui est sûr de son choix à plus de 50%. On se souvient que pour Emmanuel Macron, ça avait mis très longtemps dans la campagne pour passer ce seuil de 50%. On l'avait atteint à peu près fin mars, début avril seulement. Et donc, on voit bien, là aussi, d'un certain point de vue, la même chose que ce que vient de vous dire Frédéric, c'est-à-dire la logique institutionnelle qui pousse à une dynamique électorale en faveur du parti du président. Justement, si on regarde un peu les pronostics et les souhaits des électeurs, est-ce qu'on a des informations sur ce que finalement à la fois ils souhaitent en termes de majorité dans la prochaine assemblée et leur perception de la capacité du parti d'Emmanuel Macron à obtenir cette majorité.
Oui, les électeurs sont très divisés en ce qui concerne le souhait de voir Emmanuel Macron disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale. 49% souhaitent qu'il dispose de cette majorité, 49% souhaitent également l'inverse, avec évidemment des variations selon le type d'électorat. 93% des électeurs d'Emmanuel Macron souhaitent évidemment qu'il dispose d'une majorité pour gouverner. C'est également le cas en majorité des électeurs de Benoît Hamon. En revanche, tous les autres électorats, majoritairement, ne souhaitent pas que Emmanuel Macron dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale.
C'est intéressant de noter que ce 49% de souhait de majorité pour Emmanuel Macron, il est à la fois faible, mais quand on le regarde, hein, c'est une question qu'on posait à la fois en 2007 et en 2012, et notamment en 2012, c'était à peu près le même score obtenu par François Hollande sur le fait de savoir si les électeurs voulaient lui donner une majorité ou non. Et le Parti Socialiste a obtenu la majorité absolue. Donc on voit bien que c'est en fait un résultat qui à la fois divise l'électorat, mais qui est plutôt encourageant pour le nouveau président de la République.
Si l'on s'intéresse maintenant aux pronostics sur la possibilité d'une majorité pour Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, 45% des Français pensent qu'il disposera de cette majorité. Alors c'est un pronostic qui est nuancé, puisque seulement 6% pensent qu'il en disposera certainement, mais en tout cas, c'est un petit peu plus que ce que nous avions mesuré lors du second tour, dans le sondage jour du vote, effectué le second tour de l'élection présidentielle.
Oui, jusqu'au second tour de la présidentielle, on a déjà posé 3 fois cette question, et à chaque fois, on avait à peu près seulement 30% des électeurs qui pensaient qu'Emmanuel Macron aurait une majorité. Donc on voit bien le changement aussi de perception en termes de pronostic qui s'est déroulé, qui s'est produit dans l'opinion depuis la nomination du Premier ministre et du nouveau gouvernement, et on voit bien un premier effet de cette nomination.
Nous avons posé aussi une question concernant la présence de députés issus de certaines formations politiques, le souhait de présence de ces députés dans la future Assemblée nationale. 2/3 des Français souhaitent qu'il y ait dans cette future Assemblée des députés issus des rangs d'Europe Écologie Les Verts. Une majorité de 59% souhaite qu'il y ait également des députés issus du MoDem. Et une majorité de 54% souhaite que la France insoumise dispose de députés dans la future Assemblée nationale. En revanche, une majorité de 56% des Français ne souhaite pas qu'il y ait des députés du Front National dans cette future Assemblée. Alors justement, nous avons modélisé les résultats de cette intention de vote pour effectuer une projection en siège de ce que pourrait être la future Assemblée nationale. Bruno, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que nous avons procédé au plan méthodologique ?
Alors effectivement, la modélisation, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps. Déjà, au moment des départementales, on avait modélisé les résultats pour essayer de comprendre quelles allaient être les majorités dans les différents départements de France. Donc c'est un exercice qu'on mène maintenant depuis plusieurs années et qu'on commence à assez bien maîtriser. Le principe est assez simple et en même temps, il utilise beaucoup de données. En fait, on regarde la structure des électorats, c'est-à-dire on regarde qui vote pour qui, pour les différents partis politiques, En Marche, LRUDI, France Insoumise, Front National, etc. On regarde ensuite cette sociologie électorale et d'où viennent ces électeurs en termes politiques, en fonction des résultats des différentes élections, la présidentielle de 2012, celle de 2017, les régionales de 2015. Et on regarde finalement cette structure électorale par rapport à ce qu'est la structure des circonscriptions, à la fois en termes sociologiques, les hommes, les femmes, les générations, un certain nombre de critères comme le niveau de diplôme, le fait d'être propriétaire ou locataire, le maximum de choses que nous donne l'INSEE dans le recensement. au regard des résultats passés aussi de ces circonscriptions, et on va calculer dans chaque circonscription, compte tenu de ces tendances, quel serait logiquement le score de chaque force politique. Et ça nous permet, en fait, dans chaque circonscription, d'évaluer qui pourrait être qualifié pour le second tour des législatives. Parce qu'il faut rappeler, le scrutin législatif, sa grande particularité, c'est qu'il impose, pour se qualifier au second tour, d'être soit l'un des deux premiers candidats à arriver au premier tour, ou d'avoir obtenu, si on est troisième ou plus, au moins 12,5% des électeurs inscrits. Or, aux législatives, on a souvent un taux de participation qui est inférieur à 60%, donc 12,5% des inscrits, c'est un résultat qui nécessite d'obtenir entre 20 et 25% des suffrages exprimés. Donc on calcule pour chaque circonscription quelle va être la configuration du second tour, ce qui permet déjà d'avoir une assez bonne approche et une assez bonne compréhension de la manière dont va se répartir cette élection. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce calcul de configuration des seconds tours, on applique tout simplement des matrices de transfert de voix entre le premier et le second tour pour calculer qui va être vainqueur du second tour dans chaque circonscription. Et ça permet d'agréger un certain nombre de résultats et de savoir à peu près combien de députés peuvent être obtenus par chaque force politique. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne le fait que sur les 535 circonscriptions de France métropolitaine hors Corse. Pourquoi ? Parce que en Corse, dans les DOM-TOM, on a des phénomènes très spécifiques dans les élections législatives qui sont les candidats régionalistes et qui font qu'on ne peut pas vraiment utiliser les résultats passés pour prédire un peu le résultat de l'élection législative dans ces circonscriptions. Et puis on met aussi à part les Français de l'étranger qui répondent à une autre logique, et on a assez peu de recul sur les Français de l'étranger, hein, puisque ça n'est que la deuxième fois qu'on aura des députés des Français de l'étranger. Donc on les intégrera au fur et à mesure que l'on se rapprochera de cette élection législative, mais pour l'instant on n'est pas encore à ce niveau-là.
Alors précisons que ce modèle est réalisé en collaboration avec SLPV Analytics. Est-ce qu'on peut maintenant, qu'on vient de détailler la projection, la méthodologie de la projection, est-ce que tu peux nous donner des résultats en siège de la future Assemblée nationale ?
Oui, ce que l'on voit très largement, c'est qu'on se dirige probablement vers une majorité absolue pour En Marche. On est déjà sur les 535 sièges étudiés à un nombre de députés entre 280 et 300 pour cette formation politique. Rappelons que la barre symbolique de la majorité absolue à l'Assemblée, c'est 289 sièges. Donc on voit bien que même dans la fourchette basse, compte tenu du fait qu'il y aura des députés des Français de l'étranger et probablement d'outre-mer qui seront également En Marche, on passerait la majorité absolue pour ce mouvement. Deuxième enseignement, c'est que il y a une force qui résiste assez largement dans cette Assemblée nationale et qui peut espérer revenir relativement nombreuse, même si elle est dans l'opposition, c'est le bloc LR-UDI. Aujourd'hui, on obtient pour eux entre 150 et 170 députés. Alors pourquoi on a une bonne résistance de LR et UDI ? Je dirais qu'il y a deux raisons. La première, c'est que on a un score, Frédéric l'a dit, qui reste relativement bon dans ces élections législatives, en ligne avec celui de François Fillon, 20%, et qui en fait la deuxième force politique ex aequo à l'issue de ce premier tour. Et puis, se combine à ce bon résultat relatif électoralement en pourcentage des voix, le fait que LR et UDI ont une très bonne implantation locale, puisqu'aujourd'hui ils ont environ 200 députés, et donc ils ont des sortants en nombre important. Ils ont aussi dans leurs candidats un certain nombre de candidats qui ont des mandats locaux dans ces circonscriptions, et donc qui leur permettent d'avoir, je dirais, un bon potentiel d'élus, d'autant que dans un certain nombre de circonscriptions, aujourd'hui 82 dans notre calcul de modélisation, on devrait avoir un duel de second tour entre le Front National et LR-UDI, ce qui conduit massivement à une élection de députés LR-UDI et qui leur permet d'avoir un nombre de bases très important.
Pour donner un élément de mise en perspective historique et comprendre cette résistance, il faut savoir qu'en 2012, il y avait 196 députés étiquetés Union pour un mouvement populaire, UMP, et 29 députés Union des démocrates et indépendants, UDI, soit un total de 225. On voit bien que là, l'érosion, finalement, on serait plutôt dans le cadre d'une érosion que d'un effondrement. En revanche, on peut parler d'effondrement pour le Parti Socialiste, qui obtenait 295 députés, majorité absolue en 2012.
Oui, effectivement, pour le Parti Socialiste, aujourd'hui, dans la projection, dans ce premier modèle, on est à 40 à 50 députés. Et on sent bien, d'ailleurs, qu'entre ces 40 et 50 députés, on est sur la ligne de crête pour beaucoup d'entre eux. C'est-à-dire que le risque qu'il y ait un effondrement supplémentaire dans les semaines qui viennent pour le Parti Socialiste n'est pas négligeable. On voit bien que beaucoup de ces députés pourraient, en fait, au final, être des députés en marche, parce que la concurrence et la qualification entre les candidats socialistes et les candidats en marche, parfois se jouent à très peu de choses. Donc c'est un véritable danger de disparition pour le Parti Socialiste. Il y aura aussi un enjeu très important qui est de savoir, dans les députés qui survivront pour le Parti Socialiste, quel sera le rapport de force entre l'aile gauche et l'aile droite du parti. Parce qu'il est tout à fait possible qu'en plus, avec peu de députés, on ait une capacité de survie qui soit beaucoup plus forte dans ceux qui sont issus de l'aile droite, pour une raison simple, c'est qu'il y a un certain nombre de circonscriptions dans ces 535 circonscriptions, une quarantaine, dans lesquelles En Marche ne présente pas de candidat. Et ce sont souvent des circonscriptions qui concernent des députés socialistes plutôt proches de la tendance
comme celle
Valls,
de Manuel Valls.
Comme justement. Celle de Manuel Valls, par exemple. C'est le cas aussi, par exemple, de celle de Myriam El Khomri à Paris. Et donc, qui peut permettre à Myriam El Khomri d'être élue députée et donc d'être plutôt proche de la nouvelle majorité. Donc c'est vraiment, pour le Parti Socialiste, probablement une question de survie, et on voit que le succès d'En Marche, en fait, s'explique, comme Frédéric l'a très bien dit, moins par une capacité à anéantir la droite que à remplacer la gauche et le Parti Socialiste.
Alors, en ce qui concerne maintenant la France Insoumise,
alors, pour la France Insoumise, on est à ce jour sur un nombre de députés de 20 à 25, alors qui agrègent à la fois les députés de la France Insoumise et ceux du Parti Communiste. Là, il y a des incertitudes aussi qui concernent justement cette division qui va exister et dont on aura une vision réelle ce soir à 18h quand le dépôt des listes sera fait, le dépôt des candidats sera fait. Quel va être l'impact de cette division entre communistes et France Insoumise pour cette élection ? Ce qui est intéressant, c'est que dans la modélisation, par exemple, on voit que on a pour le moment Jean-Luc Mélenchon qui l'emporterait dans sa circonscription, donc qui pourrait être le chef de ce groupe, qui n'est pas très important, mais là encore, on voit bien que la bataille entre France Insoumise 20-25 et le Parti Socialiste 40-50 n'est pas encore jouée dans cette campagne, et rien ne permet de dire à ce stade que à l'issue du scrutin, on n'aurait pas plus de députés de la France Insoumise que de députés socialistes.
Et pour terminer, le Front National, avec un score de 20%, obtiendrait combien de députés ?
Alors le Front National, c'est la grande victime de ce scrutin majoritaire, comme d'habitude, hein, puisqu'avec 20%, le même score que les Républicains et l'UDI, on est sur une projection de seulement 10 à 15 députés. C'est évidemment très faible, c'est plus faible que ce qu'on attendait encore il y a quelques semaines. Ça s'explique par deux raisons. D'abord, le fait que Marine Le Pen n'a fait que 21% au premier tour de la présidentielle. Pendant longtemps, on pensait qu'elle pouvait plutôt se situer autour des 25%. Et évidemment, plus le score de premier tour est faible, plus pour le Front National, c'est difficile de l'emporter au second tour dans un scrutin majoritaire. Deuxième raison importante, c'est, on l'a vu au second tour de la présidentielle, le phénomène de barrage contre le Front National reste très vivace dans le pays, hein. 66% rappelons-moi pour Emmanuel Macron, ce qui était là aussi la fourchette haute de ce que l'on attendait dans un duel de ce type. Et donc on voit bien que c'est une difficulté majeure. Disons-le quand même, quand on regarde ces 10 à 15 circonscriptions qui pourraient être gagnées, en général, les grandes têtes d'affiche du Front National, en revanche, peuvent espérer être élues. Marine Le Pen l'emporterait dans sa circonscription. Gilbert Collard pourrait être réélu, lui. La circonscription de Marion Maréchal-Le Pen devrait aussi rester au Front National. Là encore, c'est un résultat qui, évidemment, est à affiner dans les semaines qui viennent, parce qu'on voit bien que 10 à 15, ça n'est pas la même chose. 15, rappelons-le, c'est la barre pour pouvoir constituer un groupe à l'Assemblée nationale. 10, ça ne le permettrait pas. Donc l'enjeu pour le Front National va être d'être capable d'atteindre ces 15 députés, voire de les dépasser un peu, pour se garantir le fait d'avoir un groupe dans la nouvelle Assemblée.
Voilà, c'est la fin de ce premier Légicast. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.